Chapitre 10. Preuve. L'aube pointait à peine quand elle se faufila silencieusement dans sa cabine. Elle le croyait sans doute endormi. Kenneth ne dormait pas. Quand ils avaient regagné le navire, Etta l'avait aidé à prendre un bain chaud et à changer de vêtements. Puis il l'avait chassé et avait étalé sur la table ses plans de partage. Il avait disposé règles, compas et plumes et examiné ses esquisses d'un air maussade. Il les avait dessinées de mémoire. Aujourd'hui, en explorant laborieusement les lieux en question, il s'était rapidement rendu compte que certaines de ses idées étaient irréalisables. Il étala une feuille de vélin et se mit à l'œuvre. Il avait toujours aimé ce genre de travail. Comme s'il créait son propre univers. Un monde net et ordonné où tout était logique, exploité au mieux. Il était ramené à l'époque de sa petite enfance quand il jouait par terre à côté du bureau de son père. Le sol était en terre battue, dans la première maison dont il se souvenait. Quand son père n'avait pas bu, il travaillait à ses plans de l'île de Clé. Il ne se contentait pas de dessiner sa demeure. Il traçait à l'encre les rangées de maisonnettes où logeraient les serviteurs, les lopins de terre dont chacun disposerait, il allait même jusqu'à calculer l'espace nécessaire à chaque récolte. Il avait fait les croquis des étables et de la grange, des bergeries pour les moutons, les disposant de telle sorte que les tas de fumier soient à portée de main pour engraisser les jardins. Il avait prévu un baraquement pour les membres d'équipage du navire, désireux de dormir à terre. Il avait placé les bâtiments de façon que les routes soient droites et planes. C'était le schéma d'un petit monde parfait, sur une île secrète. Souvent, il asseyait le jeune Kenneth sur ses genoux pour lui montrer son rêve. Il lui racontait comme il serait heureux ici. Tout était si bien arrangé. Durant une brève période, le rêve avait pris de l'ampleur. Jusqu'à l'arrivée d'Ygrotte. Il avait repoussé cette pensée, l'avait chassée au fond de son esprit pendant qu'il travaillait. Il était en train de dessiner l'abri au pied de la tour de garde quand l'amulette se mit soudain à parler.
« Quel est le but de tout ceci ? » demanda-t-elle.
Kenneth se renfrogna à la vue du pâté d'encre que son sursaut avait provoqué. Il le tamponna soigneusement avec le buvard. Il y aurait tout de même une trace. Il faudrait la gratter au sable. Il fronça les sourcils en se penchant à nouveau sur son travail. « Le but de ce plan, » répondit-il pour lui-même plus que pour l'amulette insolente, « c'est que ce bâtiment pourra servir à la fois de havre en cas d'attaque et d'abri provisoire jusqu'à ce que les maisons soient reconstruites. S'il creuse un puits ici à l'intérieur et qu'il fortifie à l'extérieur, alors... »«
Alors ils pourront mourir de faim au lieu d'être embarqués comme esclaves, »
fit gaiement observer le charme. Les pillards n'ont pas cette patience d'habitude. Ils cherchent une rapine facile et rapide, et des esclaves. Ils ne vont pas assiéger une ville fortifiée.
Mais quel est le but de ces plans? Pourquoi portes-tu un tel intérêt à la création d'une ville pour des gens que tu méprises en ton fort intérieur?
L'espace d'un instant, il se sentit coincé. Il baissa les yeux sur ses papiers. C'était vrai. Les gens de partage n'étaient pas dignes de vivre dans un endroit aussi bien organisé. Il découvrit tout à coup que cela n'avait pas d'importance. « Ce serait mieux, » répondit-il avec entêtement. « Ce sera plus net. »
« La domination, » corrigea le charme. « Tu auras laissé ta marque sur leur façon de vivre. Je suis arrivé à la conclusion que c'était tout ce que tu cherchais, Kenneth. Dominer. » « Que crois-tu, pirate? Tu crois que si tu acquiers suffisamment de pouvoir, tu vas revenir en arrière et dominer le passé, défaire ce qui s'est passé, relancer le projet de ton père, ressusciter son petit paradis? Le sang sera toujours là, Kenneth. Comme une tache d'encre sur un plan parfait, le sang imprègne et souille. Quoi que tu fasses, quand tu entreras dans cette maison, tu sentiras toujours l'odeur du sang. » Tu entendras toujours les hurlements. »
Hors de lui, il avait jeté sa plume qui laissa une traînée de sang sur ses plans. « Non, pas de sang, » se dit-il furieux. « de l'encre noire, c'était tout. L'encre pouvait être absorbée par un buvard, blanchi, alors que le sang, un jour ou l'autre. Il s'était couché. Dans le noir, il était allongé, bien éveillé. Il avait attendu qu'Etta revînt. Mais quand elle entra enfin, elle se faufila comme un chat après une chasse nocturne. Il savait d'où elle venait. Il l'écouta se dévêtir dans l'obscurité. Elle approcha doucement du lit et essaya de se glisser sous les couvertures. « Alors, comment va le gamin ? » demanda-t-elle d'une voix chaleureuse. Elle eut un hoquet de surprise. Il la vit porter la main à son cœur. « Tu m'as fait sursauter, Kenneth. Je te croyais endormi. »
« Évidemment, » constata-t-il d'un ton sarcastique.
S'il était furieux, ce n'était pas parce qu'elle avait couché avec le garçon, certes non. C'est ce qu'il cherchait depuis longtemps, bien sûr. Mais parce qu'elle croyait pouvoir le tromper. Ce qui signifiait qu'elle le prenait pour un idiot. Il était grand temps de lui ôter cette idée de la tête.
« Tu as mal ?» demanda-t-elle.
Sa sollicitude paraissait sincère.
« Pourquoi demandes-tu cela ?»«
Je pensais que c'était peut-être à cause de ça que tu ne dormais pas. Je crains que Yéma soit plus sérieusement blessé qu'on ne le croyait. Il ne s'est pas plaint cet après-midi, mais ce soir, son bras était si enflé qu'il a eu du mal à retirer sa chemise. »
« Alors tu l'as aidé ?» conclut Kenneth aimablement.
« Oui, je lui ai fait un emplâtre. L'enflure a diminué. Puis je lui ai posé des questions sur un livre que j'avais essayé de lire. Je le trouvais idiot, ce livre. Comment démêler ce qui est réel dans notre vie de ce qui est le produit de notre imagination ? Philosophie, il a appelé ça.
Du temps perdu, ma foi.
Comment sait-on qu'une table est une table ? À quoi bon réfléchir là-dessus ? Il a dit que cela nous force à réfléchir sur la façon dont on pense. Je trouve quand même ça idiot, mais il insiste pour que je le lise. Je ne me suis pas rendu compte avant de quitter sa chambre qu'on s'était disputé aussi longtemps.
Disputé ?
Pas méchamment. Discuté, aurais-je dû dire. Elle souleva la courte pointe et se glissa dans le lit.
Je me suis lavée,
se hâta-t-elle d'ajouter alors qu'il s'écartait d'elle.
« Dans la chambre de Yéma ? »
demanda-t-il méchamment. « Non, dans la coquerie, où il y a toujours de l'eau chaude. » Elle se lova contre lui et soupira. Au bout d'un instant, elle interrogea d'un ton sec. « Kenneth, pourquoi m'as-tu posé ces questions ? Tu te méfies de moi ? Je te suis fidèle ?»«
Fidèle !» Le mot le choqua.
Elle s'assit brusquement dans le lit en entraînant les couvertures.
« Bien sûr, fidèle, toujours fidèle. Qu'est-ce que tu croyais ?»
Ce pouvait être un obstacle à tous ses projets. Il tira sur la couverture et elle se rallongea. Il formula ces mots avec soin.
« Je pensais que tu resterais avec moi un certain temps, jusqu'à ce qu'un autre te séduise. »
Il haussa les épaules, plus troublé qu'il ne voulait l'admettre. Pourquoi était-ce si difficile à admettre ? C'était une putain. Les putains ne sont pas fidèles.
Jusqu'à ce qu'un autre me séduise ?
Tel que Yéma, tu veux dire ? Elle eut un profond rire de gorge.
Yéma !
Il est plus de ton âge que du mien. Son corps est tendre et jeune, à peine marqué de cicatrices et de surcroît, il a ses deux jambes. Pourquoi ne le trouverais-tu pas plus désirable ?
Tu es jaloux ?
On aurait dit qu'il venait de lui offrir un diamant.
« Oh, Kenneth, ne sois pas bête, Yéma.
D'abord, je me suis montré gentille avec lui seulement parce que tu me l'as demandé. Maintenant, j'en suis venu à reconnaître sa valeur. Je comprends ce que tu voulais me faire voir en lui. Il m'a beaucoup appris et je lui en suis reconnaissante. Mais pourquoi voudrais-je échanger un homme pour un puceau ?
C'est un être complet. » fit remarquer Kenneth. Aujourd'hui, il s'est battu comme un homme. Il a tué.
Il s'est battu aujourd'hui, oui. Mais cela ne fait pas de lui un homme pour autant. Il s'est battu pour la première fois avec le couteau qu'on lui a procuré. Il s'est servi des techniques que je lui ai apprises. Il a tué. Et cet acte le tourmente, le ronge cette nuit.
Il en a longuement parlé. Du péché d'enlever à un homme ce que seul ça pouvait lui donner.
Elle baissa la voix. Et il a pleuré.
Kenneth avait du mal à suivre.
Et c'est ça qui te fait le mépriser?
Non. Je l'ai plaint tout en voulant le secouer. C'est un gamin déchiré entre sa nature douce et son besoin de te suivre. Il en est conscient. Il en a parlé ce soir. Il y a longtemps, quand le hasard nous a mis en présence, je lui ai dit des choses. Des choses de bon sens. Trouver sa voie en partant du présent au lieu de regretter ce qui aurait pu être. Il a pris ces choses au sérieux, tellement au sérieux, Kenneth. Elle baissa la voix. Il croit maintenant que ça l'a conduit vers toi. Selon lui, tout ce qui lui est arrivé depuis qu'il a quitté le monastère l'a mené vers toi. Il croit que ça l'a livré à l'esclavage afin qu'il puisse mieux comprendre ta haine de l'esclavage. Il a combattu cette idée pendant longtemps. Il s'y opposait parce qu'il était jaloux à cause du revirement subi de son navire en ta faveur. Cette jalousie l'a aveuglé, l'a poussé à rechercher tes défauts. Mais durant ces dernières semaines, il en est venu à comprendre que c'était la volonté de ça. Il croit qu'il est destiné à rester à tes côtés, à parler en ton nom et à se battre pour toi. Pourtant, il redoute le combat. Cela le déchire.
« Pauvre petit !» dit Kenneth à voix haute.
Il n'était pas commode de feindre la compassion alors que le sentiment de son triomphe affolait son cœur. Il s'y efforça pourtant. C'était presque aussi bien que si elle avait couché avec le garçon. Etta posa les mains sur ses épaules. Elle les pétrit doucement. Son contact était agréablement frais. J'ai essayé de le réconforter, en lui disant que ce pouvait être le hasard et non le destin qu'il avait placé ici. Sais-tu ce qu'il a répondu?
Il n'y a pas de hasard, il n'y a que le destin.
Ses mains s'immobilisèrent.
Comment le sais-tu?
C'est l'un des fondements de l'enseignement de ça. Le destin n'est pas réservé à quelques élus. Chaque homme a son destin. Le reconnaître et l'accomplir sont les buts de la vie.
Ça me paraît bien pesant comme enseignement.
Kenneth secoua sa tête sur l'oreiller.
Si l'on y croit, on sait alors qu'on est aussi important qu'un autre. On sait aussi qu'on n'est pas plus important. Cela établit une grande égalité.
Mais qu'en est-il de l'homme qui l'a tué aujourd'hui?
Sans qui Etta? Kenneth eut un petit reniflement.
C'est là-dessus qu'il bute, n'est-ce pas? Accepter qu'un homme soit destiné à mourir de sa main et que lui soit destiné à manier le couteau. Avec le temps, il verra que ce n'est pas lui du tout qui a assassiné cet homme. Ça les a réunis pour que s'accomplisse leur destin.
Alors toi aussi, tu crois en ça et en ses enseignements?
Demanda-t-elle avec hésitation.
Quand ça s'accorde à mon destin,
répondit Kenneth avec orgueil, puis il éclata de rire.
Il se sentait soudain singulièrement bien.
Voilà ce que nous allons faire pour le gamin. Nous allons lancer la construction de partage, puis nous emmènerons Yémin à l'île des autres. Je le laisserai marcher sur la plage, et un autre lui dira la bonne aventure d'après ce qu'il y aura découvert.
Il eut un large sourire dans le noir.
Alors, je lui expliquerai ce que ça signifie.
Il se retourna vers Etta qui lui ouvrait les bras. Un baril au moins de porc salé s'était gâté. Les tonneaux qui contenaient les morceaux de lard flottant dans la saumure auraient dû être hermétiques. L'odeur indiquait que le baril avait été percé, soit qu'il ait subi un choc au moment du chargement, soit qu'une pièce de la cargaison ait ripé contre lui. La saumure qui s'écoulait et la viande pourrie non seulement empestaient, mais pouvaient contaminer tout le reste. La puanteur provenait d'une cale à l'avant où l'on pouvait à peine se tenir debout, bourré de tonnelets, caisses et barils. Il allait falloir tout déplacer, retirer le tonneau abîmé, nettoyer ou jeter tout ce qui avait été à son contact. Brash avait découvert la puanteur durant l'une de ses tournées sur le navire. Il avait chargé la voile de la corvée qui la lui avait refilée. Elle y avait assigné deux hommes au début de son quart. Maintenant, alors que l'aube affleurait sur la mer, Althea était descendue pour voir comment le travail progressait. La vue qui se présenta à ses yeux l'enragea. Une moitié seulement du chargement avait été déplacée. La puanteur était toujours aussi forte.
Rien n'indiquait qu'on avait découvert le baril ni procédé au moindre nettoyage. Les crochets qu'ils auraient dû utiliser pour déplacer les tonnelets et les caisses étaient plantés dans un barreau au-dessus de leur tête. Assis sur un tonneau, Clapeau penchait sa grande carcasse sur une caisse devant lui, ses yeux bleus pâles rivés à trois coquilles de noix. En face, Artu faisait volter et danser ses doigts sales sur les coquilles.
« Laquelle, laquelle ?»
fredonnait-il sur le refrain monotone du vieux filou en déplaçant prestement les coquilles. La flétrissure lisse que le fer rouge avait laissée sur sa joue reflétait la lumière pâlissante de la lanterne. C'était le violeur évoqué par Braschen. Clapeau était tout bonnement stupide et enclin à la paresse, mais Althea détestait Artu. Elle ne travaillait jamais à côté de lui si elle pouvait l'éviter. L'homme avait de petits yeux luisants, noirs comme un trou à rat, et une bouche plissée constamment humide. Il était si absorbé à dépouiller Clapeau de son argent qu'il ne s'était pas aperçu de la présence d'Althea. Il immobilisa les coquilles d'un large geste, darda la langue, sumecta les lèvres.
« Laquelle a le haricot ?»
demanda-t-il à Clapeau en remuant les sourcils. Althea s'approcha à grandes enjambées et donna un coup de pied dans la caisse, faisant sauter les coquilles de noix. « Quel tonneau contient la viande pourrie ?» rugit-elle. Clapeau tourna vers elle des yeux ahuris, puis il montra du doigt les coquilles renversées.
« Il n'y a pas de haricot !»
s'exclama-t-il. Elle le saisit par le col de sa chemise et le secoua.
« Il n'y en a jamais !»
lui dit-elle, puis elle l'écarta d'une poussée. Il la dévisagea bouche bée. Elle se tourna vers Artu.
« Pourquoi n'as-tu pas cherché ce tonneau et nettoyé ?»
Il se leva en se léchant les lèvres, mal à l'aise. Il était petit, avec les jambes arquées, plus vif que fort.
« Parce qu'il n'y en a pas. Clapeau et moi, on a tout bougé dans cette cale, on a tout regardé et on n'a rien trouvé. Pas vrai, Clapeau ?»
Clapeau la regarda avec des yeux ronds.
« On l'a pas trouvé, madame. »«
Vous n'avez pas tout bougé. Je sens l'odeur, pas vous ?»« C'est le navire qui pue, c'est tout. Tous les navires y sentent comme ça. »
Artu haussa laborieusement les épaules.
« Quand j'aurais été sur autant de navires que moi ?»
commença-t-il d'un ton condescendant.
« Ce navire ne pue pas comme ça !»
l'interrompit Althea.
Et il ne puera jamais tant que je serai lieutenant à bord. Maintenant, déplacez-moi tout ça, cherchez la viande pourrie et nettoyez. »
Artu gratta sa nuque ornée d'un furoncle.
« C'est presque la fin de notre quart, madame. Peut-être le prochain quart, ils trouveront. »
Il hocha la tête avec satisfaction et donna à Clapeau un coup de coude complice. Le matelot efflanqué imita le sourire hilar de l'autre.
« Bonne nouvelle pour toi, Artu. « Clapeau et toi, vous êtes de quart ici jusqu'à ce que vous me trouviez ce tonneau et que vous ayez nettoyé, c'est clair ? Maintenant debout, au travail !»«
C'est pas juste !»
cria Artu en se mettant sur ses pieds.
« On a fait notre quart ! Hé, revenez, c'est pas juste !»
De ses doigts crasseux, il l'attrapa par la manche. Althea voulut se dégager d'une secousse, mais il ne lâcha pas prise, ce qui la surprit. Elle se figea. Elle n'allait pas se risquer dans une bagarre qu'elle ne gagnerait peut-être pas. Pas question non plus de voir sa chemise déchirée en face de cet homme. Elle croisa son regard, les yeux étrécis.
« Lâche-moi »
dit-elle d'une voix neutre.
Clapeau écarquillait les yeux comme un gamin. Il se mordait la lèvre inférieure. « Artu, elle est lieutenant !»
chuchota-t-il inquiet.
« Tu vas avoir des embrouilles !»«
Lieutenant !»
grogna l'autre avec dégoût. Aussi rapide qu'une anguille, il passa la main sous la manche et agrippa son avant-bras. Ses doigts sales pinçaient fort.
« C'est pas un lieutenant, c'est une femme, et elle en a envie, Clapeau. Elle en crève d'envie. »«
Elle en a envie ?»
demanda Clapeau d'un air ahuri. Il regarda Althea consterné.
« Elle crie pas ?»
fit remarquer Artu.
« Elle reste là, elle le cherche. » « Je crois qu'elle en a marre de le faire avec le capitaine. »«
Elle va le dire !»
se plaignit Clapeau désorienté. Il en fallait si peu pour le décontenancer.
« Non, elle va crier, gigoter un peu, mais on la laissera toute souriante, tu verras. »
Artu la lorgna. Il humecta sa petite bouche gonflée.
Pas vrai, lieutenant. Il sourit en dévoilant des dents frangées de brun.
Althea soutint son regard sans broncher. Elle ne pouvait pas montrer sa peur. Son esprit fonctionnait à toute vitesse. Même si elle criait, personne ne l'entendrait. Le navire percevrait peut-être son désarroi, mais elle ne pouvait pas compter sur Parangon. Il avait été si bizarre ces derniers temps. Il imaginait des serpents, des morceaux de bois flottants. Il se mettait brusquement à hurler des avertissements. Personne ne ferait attention à lui, probablement. Elle ne crierait pas.
Arthur la regardait de ses petits yeux brillants. Il aimerait qu'elle crie. Elle le comprit. Ils savaient tous deux que quand il en aurait fini avec elle, il devrait la tuer. Il ferait passer cela pour un accident, une caisse tombée sur elle ou autre. Clapeau dirait ce qu'Arthur lui ordonnerait de dire, mais Brashen ne serait pas dupe. Brashen les tuerait probablement tous les deux, seulement elle ne serait plus là pour le voir. En quelques secondes, toutes ses pensées se bousculèrent dans sa tête. Elle était seule ici. Elle avait juré à Brashen qu'elle saurait manœuvrer cet équipage. Vraiment ?
« Lâche-moi, Arthur. C'est ta dernière chance, » dit-elle d'un ton égal.
Elle parvint à réprimer le chevrotement de sa voix.
Il la gifla du revers de sa main libre. Le coup fut si rapide qu'elle ne le vit pas venir. Elle sentit son cou craquer. Brièvement étourdie, elle entendit vaguement l'exclamation « La cogne pas !» de Clapeau, affolé, et le
« Si c'est comme ça qu'elle aime, à la dure !»
d'Arthur.
Il passa ses mains à tâtons sur son corps, lui tira la chemise de ses culottes. La répulsion qu'elle éprouva à ce contact la fit revenir à elle. Elle se débattit de toutes ses forces en lançant une volée de coups qu'il parut ne pas percevoir. Son corps était dur comme du bois. Il se mit à rire de ses efforts et elle se sentit soudain désespérée. Elle n'était pas de force. Elle aurait voulu s'enfuir, mais ses bras étaient serrés comme dans un étau et le chambard de la cargaison rendait une fuite rapide impossible. Il la plaqua contre une caisse. Il lui lâcha un bras pour empoigner le col de sa chemise. Il essaya de la déchirer, mais le coton était solide. De sa main libre, elle le frappa au bas des côtes. Elle crut le voir grimacer. Cette fois, elle prévint le coup. Elle rejeta la tête sur le côté et le poing s'écrasa sur la caisse derrière elle. Elle entendit le bois se fendre sous l'impact et il poussa un cri rauque. Elle espéra qu'il s'était brisé la main. Elle essaya de lui enfoncer les doigts dans les yeux, mais il la retint et lui mordit le poignet jusqu'au sang. Ils perdirent l'équilibre et tombèrent. Elle se tordit désespérément pour éviter d'atterrir sous lui. Ils s'écroulèrent sur le flanc au milieu des caisses. On en était arrivé au corps à corps. Elle prit son élan et lui décocha deux coups brefs et violents dans l'estomac. Elle entrevit Clapeau qui se dressait au-dessus d'eux. Le grand imbécile, affolé, se frappait la poitrine, la bouche ouverte, il se lamentait, pas le temps de penser. Elle saisit Arthur par les cheveux et lui cogna la tête contre un baril derrière lui. Il relâcha un instant sa prise. Elle recommença. Il lui asséna un coup de genou en plein ventre qui lui coupa le souffle. Il roula sur elle et la plaqua au sol. D'un genou, il s'efforça de lui écarter les jambes. Elle poussa un cri de fureur, mais ne put prendre son élan pour cogner convenablement. Elle tenta de remonter les jambes pour lui donner un coup de pied, mais il la clouait au sol. Il se mit à rire en lui soufflant au visage son haleine fétide. Elle se rappela alors qu'elle l'avait vu faire. Elle savait que ça ferait mal. Elle rejeta la tête en arrière, le plus loin possible, pour le heurter de plein fouet sur le front. Mais ce fut son front à elle qui craqua sur la mâchoire de l'autre. Les dents lui entamèrent la peau mais se brisèrent net. Il hurla de douleur, se renversa en arrière en portant les mains à sa bouche ensanglantée. Elle se redressa, le frappa de toutes ses forces à l'aveuglette. Elle entendit craquer une de ses phalanges, sentit une douleur fulgurante lui traverser la main, mais elle parvint à se relever sans cesser de cogner. Une fois debout dans l'espace restreint entre les caisses, elle le bourra de coups de pied. Elle s'arrêta quand il se roula en boule sur le flanc en gémissant. Elle repoussa en arrière ses cheveux poissés de sang et regarda hébétée autour d'elle. Des heures semblaient s'être écoulées, mais la lanterne clignotait toujours et Clapeau était toujours là, bouche bée. Elle n'avait pas mesuré jusqu'ici à quel point il était demeuré. Il se mordillait le poing et en croisant son regard, il se mit à crier
« Je vais trinquer, je le sais, je vais trinquer !»
Dans ses yeux, il y avait à la fois effroi et défi.
« Trouve-moi ce baril de viande pourrie et jette-le par-dessus bord !»
Elle s'interrompit pour reprendre haleine. « Nettoie-moi tout ça. Après, tu seras relevé. » Subitement, elle se plia en deux, les mains sur les genoux, et prit plusieurs profondes inspirations. Elle avait la tête qui tournait. Elle crut qu'elle allait vomir, mais parvint à réprimer son haut-le-cœur. Arthur commençait à se déplier. Elle lui donna encore un violent coup de pied. Puis, elle saisit le croc de charge au-dessus de sa tête par le manche et le fit tourner pour le dégager du barreau. Arthur roula la tête et la dévisagea d'un œil encroûté de sang caillé.
« Ça, non !»
supplia-t-il. Il leva les mains pour se protéger la tête.
« Je vous ai rien fait !»
La douleur que lui causaient ses dents cassées paraissait l'avoir complètement mis hors de combat. Il attendit que le coup s'abatte. Clapeau poussa un cri d'horreur inarticulé. Il se mit à bousculer frénétiquement caisse et baril pour chercher la viande avariée. Pour toute réponse, elle empoigna la chemise d'Arthur, y accrocha la gaffe. Puis, elle se dirigea vers l'échelle en le tirant résolument derrière lui. Il piaillait, battant des pieds, essayait de se relever. Elle s'arrêta et donna un tour au manche du croc. La toile de la chemise s'entortilla autour, paralysant les bras du matelot. Elle se remit en marche en le traînant comme un poids mort. La rage suppléait ses forces déclinantes. Elle entendit Parangon crier, mais ne put distinguer ses paroles. Quelques têtes curieuses apparurent à l'écoutille et se penchèrent pour scruter à l'intérieur. C'étaient les hommes du quart de Lavoye, ce qui signifiait que le second se trouvait très probablement sur le pont. Sans leur accorder un regard, elle gravit les degrés en tirant Arthur qui se débattait. Elle banda toute sa volonté pour atteindre le pont. Quand elle finit par émerger, elle entendit les matelots marmonner en se demandant ce qui se passait. Les hommes groupés autour de l'écoutille battirent en retraite. Tandis qu'elle hissait Arthur, les exclamations firent place à des jurons d'effroi. Elle entrevit Aff, qui la dévisageait, les yeux écarquillés. Elle se dirigea vers la lisse de bâbord, halant toujours Arthur derrière elle. Il gémissait et piaulait.
« Je lui ai rien fait, j'ai rien fait !»
Ses mains étouffées par les mains qu'il gardait devant sa bouche en sang et ses dents cassées pour se protéger. Lavoye les observait d'un œil indifférent depuis son poste à la lisse de tribord. Brachen apparut soudain sur le pont. La chemise ouverte, pieds nus, les cheveux dénoués. Cliff sur ses talons qui jacassaient. Le capitaine embrassa la situation d'un coup d'œil. Il contempla horrifié la figure ensanglantée d'Althea, sa tenue dépenaillée, puis il chercha le second du regard.
« Lavoye, qu'est-ce qui se passe ici ?»
rugit Brachen.
« Pourquoi n'avez-vous pas arrêté ça ?»«
Capitaine ?»
Lavoye avait l'air déconcerté. Il jeta un regard bref à Althea et à Arthur comme s'il venait seulement de les apercevoir.
« Ce n'est pas mon quart, capitaine. On dirait que le lieutenant a la situation bien en main. »
Il durcit le ton pour s'adresser à Althea.
« J'ai raison. Vous vous débrouillez, Althea ?»
Elle s'arrêta et le regarda.
« Je vais jeter la viande pourrie par-dessus bord, comme vous l'avez ordonné, chef. »
Et elle donna un demi-tour supplémentaire à la gaffe. Durant un instant, ce fut le silence complet. Lavoye reporta son regard interrogateur sur Brachen. Le capitaine haussa les épaules.
« Continuez !»
Il se mit à boutonner sa chemise comme si cela ne le concernait pas. Il leva les yeux et scruta la mer pour voir quel temps se préparait. Arthur glapit comme un chien battu et se démena. Elle le traîna plus près de la lisse en se demandant si elle allait vraiment le faire basculer. Soudain, Clapeau apparut sur le pont chargé de deux seaux. L'odeur indiquait ce qu'il contenait.
« J'ai trouvé la viande pourrie, je l'ai trouvée !»
brailla-t-il et il se rua vers la lisse.
« Le baril était enfoncé, il y en a partout, mais on va tout nettoyer, pas vrai, Arthur? On va tout nettoyer !»
Il souleva un seau, en versa le contenu par-dessus bord. Alors qu'il prenait le second, la tête d'un serpent surgit de l'eau. Il happa la viande infecte alors que Clapeau reculait en chancelant et en hurlant.
« Serpent ! Serpent !»
Parangon ajouta son rugissement au branle-bas général. Althea lâcha le croc de charge. Arthur se recula à quatre pattes pour s'éloigner du bord, faisant claquer le manche de la gaffe sur le pont. Pendant un long moment, Althea et le serpent se regardèrent, yeux dans les yeux. Ses écailles étaient du vert tendre d'un feuillage de printemps, ses yeux immenses, jaunes comme des pissenlits. Les écailles se chevauchaient en un dessin si précis que l'œil en était attiré. Celles du dos étaient plus grandes qu'une main, alors qu'autour des yeux, elles avaient la taille d'un grain de blé. Pendant quelques secondes, elle resta pétrifiée par la beauté du gigantesque animal. Alors il ouvrit une gueule assez vaste pour engloutir un homme entier. Elle plongea le regard dans un gosier d'un rouge hideux bordé de rangées de crocs.
Il secouait la tête d'avant en arrière avec un rugissement interrogateur.
Elle demeura parfaitement immobile. Il referma la gueule et la dévisagea. Elle aperçut un mouvement du coin de l'œil. Un homme qui courait avec un croc de canot. Au même moment, lui parvint le cri de Brashen.
« Ne l'excitez pas, laissez-le !»
Elle se retourna et se jeta sur Haf.
Le matelot brandit la longue gaffe comme une arme en criant
« Je n'ai pas peur !»
Sa figure toute pâle démentait ses paroles. Elle l'attrapa par le bras et tenta de l'arrêter.
« Il veut manger, laisse-le! Il se peut qu'il s'en aille! Haf, laisse-le !»
Il se dégagea d'une secousse impatiente. Les mains meurtries d'Althea étaient soudain trop douloureuses pour maintenir la prise. Il la repoussa et elle tomba. Horrifiée, elle le vit faire tournoyer la gaffe.
« Non !»
rugit Brashen, mais le croc était déjà en mouvement. Il frappa l'animal sur le mufle, glissa sur les écailles jusqu'à ce que la pointe recourbée atteigne un naseau et s'y plante. Épouvantée, Althea vit la bête rejeter la tête en arrière, entrer dans la gaffe et Haf s'y cramponna avec le courage obtus d'un chien de combat.
Le serpent parut alors doublé de taille. Son cou enfla et une immense collerette de piquants venimeux se hérissa autour de sa tête et de son poitrail. Il rugit de nouveau et cette fois, deux fines gouttelettes jaillirent de sa gueule. Elles retombèrent sur le pont et le bois se mit à fumer.
Althea entendit le cri d'angoisse de Parangon. Le poison, chassé par le vent, lui brûla la peau comme un coup de soleil. Noyé dans un brouillard de venin, Haf poussait des cris perçants. Il lâcha le croc et retomba, désarticulé sur le pont. Mort ou inconscient.
Le serpent inclina la tête brusquement, dévorant des yeux l'homme étendu, puis fonça sur lui.
Althea était la seule à être assez proche pour pouvoir faire quelque chose. Il fallait qu'elle agisse, même vainement. Elle ne pouvait pas rester ainsi plantée à regarder le serpent dévorer cet homme. Elle bondit et empoigna le manche de la gaffe que l'haleine du monstre avait piquetée et fendue. Elle la grippa et s'y appuya de tout son poids pour écarter la tête de l'animal de son but. Clapeau surgit de nulle part et lança un seau de bois vide à la tête du serpent. Du même mouvement, il saisit Haf par les chevilles et le tira en arrière. Ce qui faisait d'Althea la seule cible du serpent. Elle resserra sa prise sur la gaffe et la poussa de toute sa force. Elle s'attendait que le manche en bois cède à tout moment. Sous sa poussée, l'animal, fou de douleur, s'écarta d'elle. Il cracha encore et sa salive cribla le pont de petits trous. La vive nef poussa un cri perçant. Derrière Althea, des voix s'élevèrent. La voix qui commandait aux hommes de mettre tout dessus, les hommes qui hurlaient de colère et de terreur, mais par-dessus tout, l'exclamation stupéfaite et furieuse du navire.
« Je te connais !»
rugit Parangon.
« Je te connais !»
Ambre cria quelque chose qu'Althea ne put saisir. Elle s'accrochait à la gaffe avec l'énergie du désespoir. Le manche commençait à céder, mais c'était la seule arme dont elle disposait. Elle ne s'était pas aperçue que Brashen l'avait rejointe jusqu'à ce qu'il frappa le serpent avec un aviron, arme dérisoire contre un tel animal, la seule qu'il eut sous la main. Brusquement, le crochet se détacha du naseau du monstre. Libéré à présent, il secoua sa crinière, éclaboussant le pont de son poison fumant. Alors que la tête revenait vers eux, Althea brandit la gaffe comme une lance et chargea. Elle visa le grand œil, le manqua tandis que la tête pivotait vers Brashen. La pointe du croc frappa une tache colorée juste sous la tache de la mâchoire. À la stupéfaction d'Althea, le crochet pénétra sans résistance dans la chair comme dans un melon mûr.
De toute sa force, elle l'enfonça profondément jusqu'au manche et l'y ficha d'une secousse. Affolé de douleur, le serpent rejeta la tête en arrière.
« Dégagez !»
cria-t-elle inutilement à Brachen. Il avait déjà plongé et roulé sur le pont. Elle imprima au croc une dernière saccade. De la chair déchirée, un poison brûlant et fumant ruisselait sur le cou. Il poussa un cri perçant, le sang et le venin jaillissaient de sa gueule béante. Il secoua la tête sauvagement, arrachant la gaffe des mains engourdies d'Althea. Elle s'assit brutalement et fixa d'un regard égaré l'animal qui se débattait. Des gouttes de venin tombèrent dans la mer, d'autres éclaboussèrent le pont et le bord du navire. Parangon poussait des cris inarticulés et un frisson parcourut sa carcasse de bois. Alors que le serpent glissait en arrière et s'abîmait dans les vagues, Brachen hurlait qu'on apporte des seaux, de l'eau de mer et des brosses. « Frottez le pont, tout de suite !» Il rugissait, à croupetons, le visage écarlate, brûlé par le venin du serpent. Il se balançait d'avant en arrière comme s'il essayait en vain de se lever. Althea redoutait qu'il n'ait été aveuglé. Alors, de la proue monta un cri sauvage qui lui glaça le sang.
« Je te connaissais !»
brailla le parangon.
« Et toi aussi tu me connaissais. Par tes poisons, je me connais. »
Son sourire dément éclata dans le vent.
« Le sang est souvenir !»
Le monde peut-il changer à ce point en une seule nuit ?
Se demandait Ronica Vestrit.
Dans l'ancienne chambre d'Althea, si l'on se perchait sur une chaise et qu'on regardait par la fenêtre, on avait une vue partielle de Terrilville et du port au-dessus du faîte des arbres qui faisaient écran. Aujourd'hui, Ronica avait beau écarquiller les yeux, elle ne voyait que de la fumée. Terrilville était en feu. Elle descendit du siège avec raideur et ramassa une brassée de draps sur le lit d'Althea. Elle allait en faire des baluchons qu'elles emporteraient dans leur fuite. Elle ne se rappelait que trop nettement le long chemin de retour dans le noir. Malta titubait entre Ronica et Kefria comme un petit animal estropié. Au bout d'un moment, Seldon était sorti de son hébétude et s'était mis à pleurer. Il gémissait sans fin, demandant qu'on le porte, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Elles en étaient incapables. Ronica le tirait par la main et de son autre bras, elle soutenait Malta à la taille. Kefria avait pris l'avant-bras de sa fille et l'aidait à marcher tout en tenant sa propre main blessée recroquevillée sur la poitrine. Le trajet avait duré une éternité. À deux reprises, des cavaliers les avaient dépassés, mais malgré leurs cris, ils s'étaient éloignés dans un fracas de tonnerre. Le jour se leva tard car l'air enfumé avait prolongé l'empire de la nuit sur la terre. L'obscurité avait été plus clémente. La lumière révélait leurs vêtements en lambeaux et leurs écorchures. Kefria était pieds nus. Elle avait perdu ses souliers dans l'accident. Malta montrait les restes déchiquetés de ses mules qui n'étaient pas prévus pour la marche. La chemise en loques de Seldon collait sur son dos à vif. On aurait dit qu'il avait été traîné par un cheval. Malta avait reçu un choc en plein front. Le sang avait séché en stries sinistres sur son visage. Ses yeux pochés étaient réduits à des fentes. À voir les autres, Ronica imaginait dans quel état elle devait être, elle-même. Elle parlait à peine. Une fois, Kefria déclara « Je les ai complètement oubliés. Le gouverneur et sa compagne, je veux dire. » Elle ajouta plus bas « Tu les as vus ?»
Ronica secoua lentement la tête.
« Je me demande bien ce qui leur est arrivé. » avait-elle répondu alors qu'en réalité elle n'y songeait pas.
Elle ne se posait aucune question sur personne. Seuls les siens lui importaient.
Malta articula avec peine à travers ses lèvres enflées. « Les cavaliers les ont emmenés. » Ils cherchaient l'autre compagne et,
Quand ils ont découvert que ce n'était pas moi, ils m'ont laissé là. L'un d'eux a dit que j'étais presque morte de toute façon. »
Elle retomba dans le silence. Un silence qui se prolongea jusqu'à leur arrivée à la maison. Comme une procession de mendiants qu'on aurait roués de coups, elles franchirent en boitant l'allée mal entretenue qui menait à la demeure Vestrite pour trouver la porte verrouillée et barrée. Alors qu'Efria n'avait pu retenir ses larmes, elle avait tambouriné faiblement sur la porte en sanglotant. Rack avait fini par leur ouvrir, armée d'un bout de bois en guise de gourdin. La moitié de la matinée s'était déjà écoulée depuis lors. On avait nettoyé et pansé les blessures. Leurs belles robes de bal maculées de sang étaient entassées dans le vestibule. Les deux plus jeunes étaient au lit et dormaient profondément. Avec l'aide de Rack, Ronika et Kefria s'étaient lavées et changées, mais il n'était pas encore question de repos pour elles deux. Les doigts de Kefria avaient enflé et lui faisaient atrocement mal. Ronika et Rack durent à elles deux rassembler provisions et vêtements de rechange pour tous. Ronika ignorait ce qui se passait à Terrilville, mais des cavaliers en armes avaient enlevé le gouverneur et sa compagne et laissé pour mort les autres passagers de la voiture. La ville brûlait. La fumée était trop épaisse pour qu'on puisse distinguer ce qui se déroulait dans le port. Elle n'attendrait pas que le chaos parvienne jusqu'à sa porte. Elle disposait de la vieille jument et du poney gras de Selden. Elle ne pouvait pas emporter beaucoup d'effets, mais, songea Ronika avec amertume, il ne restait pas grand-chose de valeur dans la maison. Elles optaient pour la vie. La ferme des âtres faisait partie de sa dot. Il leur faudrait au moins 2 jours pour s'y rendre. Elle se demanda ce que la vieille Tetna, qui s'en occupait, penserait d'elle. Voilà des années qu'elle n'avait pas revu sa nourrice. Elle affecta à grand-peine de se réjouir de ses retrouvailles. Quand elle entendit les coups frappés à la porte, elle lâcha les draps dans le vestibule. Elle eut envie de se sauver. Impossible. Elle était seule entre la menace à la porte et ses enfants. Elle vit Rack se hasarder hors de la cuisine, son bâton à la main. Ronika passa rapidement dans le cabinet de travail. Par une sorte de vanité, le capitaine Vestrite gardait un épissoir au coin de son bureau. Il y était toujours. Elle l'avait à la main quand elle se tint devant la porte et demanda
« Qui est là ?»«
Reine Rupprus, je vous prie, laissez-moi entrer. »
Ronika fit un signe de tête à Rack, mais ne lâcha pas l'épissoir. La servante repoussa le loquet et le verrou. Alors que la porte s'ouvrait à la volée, Reine recula, horrifiée, à la vue de la vieille dame toute meurtrie.
« Sur mon honneur, j'ai prié pour que ce ne soit pas vrai !»
s'écria-t-il.
« Et Malta ?»
Ronika dévisagea le jeune homme du désert des pluies. Il était toujours vêtu de son élégante tenue de soirée, mais il sentait la poussière et la fumée. Il avait été au cœur de la bataille.
« Elle est vivante !»
dit Ronika d'une voix plate.
« Davad Restart est mort ainsi que son cocher. »
Il ne parut pas entendre.
« Je ne le savais pas, je le jure. »«
Elle est venue dans une voiture de louage. On m'a dit que vous étiez arrivé dans une voiture de louage. Je croyais qu'elle partirait de même. Je vous en conjure, comment va Malta ?»
Ronika comprit subitement. Le froid l'enveloppa.
« Vos hommes l'ont laissée pour morte. En fait, ils lui ont dit qu'elle était mourante. Cela devrait vous renseigner sur son état. Bonjour, reine Rupprus. »
Elle fit signe à Rack qui s'apprêta à fermer la porte.
Reine se jeta contre le battant.
Rack n'était pas de force à lui résister. Il entra en trébuchant dans le vestibule, puis se redressa et leur fit face.
« Je vous en prie, je vous en prie. Nous avons si peu de temps. Nous avons fait reculer les galères et dégager l'entrée du port. Je suis venu chercher Malta, vous cherchez tous. Je peux vous faire sortir maintenant et vous emmener au désert des pluies. Vous serez en sécurité là-bas. » Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Le Kendry va appareiller bientôt, avec ou sans nous. Les galères peuvent revenir et fermer le port à tout moment. Il faut partir sur le champ.
Non,
dit Ronika froidement.
Je crois que nous nous débrouillerons seuls, reine Rupprus.
Il pivota brusquement sur ses talons.
Malta !
Cria-t-il en se ruant dans le couloir vers les chambres. Ronika s'élança pour le suivre, mais soudain, prise de vertige, elle se retint au mur.
Son corps allait-il la trahir maintenant? Rak lui saisit le bras et la soutint. Le jeune homme était devenu fou. Il appelait Malta en hurlant. Il ouvrait brutalement toutes les portes. Il atteignit la chambre de Malta quand Kefria sortit en trompe de la sienne à l'extrémité du couloir. Il regarda à l'intérieur, poussa un cri d'angoisse et disparut dans la pièce.
« Ne la touchez pas !»
s'écria Kefria en se précipitant vers la porte. Mais Rein réapparut avec, dans les bras, Malta enveloppée d'une couverture. Elle était aussi blanche que le linge qui lui saignait le front. Elle avait les yeux clos et sa tête ballottait contre lui.
« Je l'emmène !»
dit-il sur un ton de défi.
« Vous devriez venir aussi, mais c'est à vous de décider. Je ne peux pas vous forcer. Mais je ne laisserai pas Malta ici. »«
Vous n'avez pas le droit !»
s'exclama Kefria.
« C'est la nouvelle coutume chez vous d'enlever sa fiancée ?»
Rein éclata d'un rire sauvage.
« Par ça, son rêve était vrai, oui. Je la prends maintenant. J'en ai le droit. Or ou sans, la dette doit être acquittée. Je la réclame. »
Il bredouilla ces mots insensés et baissa les yeux sur le visage de Malta.
« Elle est à moi !» affirma-t-il.
« Vous ne pouvez pas, le paiement n'est pas... »«
Il le sera bientôt et vous ne pouvez pas réunir la somme. Je la prends pendant qu'elle est encore en vie, puisque je n'ai pas le choix. Venez avec moi, je vous en supplie. Ne rendez pas les choses plus difficiles pour elle. »
Il se tourna pour faire face à Kefria.
« Elle aura besoin de vous. Et Seldon n'est pas en sécurité ici, si les Chalcédiens détruisent la ville. Vous voulez voir votre petit garçon avec un tatouage d'esclave sur la figure ?»
Kefria porta les mains à sa bouche, horrifiée. Elle regarda Ronika.
« Mère !»
fit-elle à travers ses doigts. Ronika prit la décision.
« Va chercher Seldon. Va vite, ne prends rien. Va-t'en. »
Depuis le porche, elle les regarda s'éloigner. Rein tenait Malta recroquevillée en croupe sur son cheval. Kefria était montée sur la vieille jument et un Seldon stoïque sur son poney grassouillé.
« Mère !»
demanda Kefria une dernière fois.
« Le cheval peut nous porter toutes les deux. La route n'est pas trop longue pour lui. »«
Va, va maintenant !»
répéta Ronika pour la centième fois.
« Je reste. Je dois rester. »«
Je ne peux pas te laisser comme ça !»
gémit Kefria.
« Il le faut. C'est ton devoir envers tes enfants. » « Va maintenant, va. Rein, emmenez-les avant que cette dernière chance leur échappe. »
Ce fut pour elle-même qu'elle ajouta.
« Si Terrilville est destinée à finir dans le sang et la fumée, je veux le voir, et il faut que j'enterre Davad. »
Rak se tenait à ses côtés sur le porche. Elles les suivirent des yeux jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Alors Ronika poussa un lourd soupir. Tout était si simple soudain. Rein les ferait sortir du port et les emmènerait en sécurité. Elle n'avait plus qu'à s'inquiéter d'elle-même et elle avait depuis longtemps cessé de se soucier de ce qui pourrait lui advenir. Elle sentit un pâle sourire apparaître sur son visage écorché. Elle se tourna vers l'esclave affranchi et lui prit la main.
« Eh bien !» Un peu de tranquillité, enfin. Si on allait prendre une tasse de tisane,
proposa-t-elle à son amie. On frappait fort à la porte de la cabine. Althea gémit et ouvrit un œil.
Quoi ?
Demanda-t-elle depuis sa couchette.
Le capitaine veut vous voir, immédiatement.
La voix enfantine de Cliff, impérieuse, lui parvint à travers la porte.
« C'était à prévoir, »
murmura-t-elle pour elle-même. Elle répondit
« Je viens »,
puis se leva toute raide de sa couchette. C'était l'après-midi, mais elle avait l'impression qu'on était en pleine nuit. Elle aurait dû être en train de dormir. Elle jeta un regard larmoyant autour de la petite pièce. Jack était de quart, et Ambre était restée avec Parangon, apparemment. Althea désespérait de lui, du moins pour le moment. Après l'incident avec le serpent,
Le navire avait déclamé un bon moment des phrases qui tourmentaient Althea parce qu'elles n'étaient pas dénuées de sens. « Le sang est mémoire », avait-il proclamé. « Vous pouvez le répandre, vous pouvez le dévorer, mais vous ne pourrez jamais effacer ce qu'il contient. Le sang est mémoire. » Et il avait rabâché. Elle avait cru devenir folle, non parce qu'il répétait, mais parce qu'elle ne saisissait pas le sens. Cela dépassait son entendement. Elle ramassa sa chemise, raidie de sang séché à certains endroits et trouée à d'autres par le venin du serpent. À l'idée de passer l'étoffe bourrue sur sa peau meurtrie et écorchée, elle frissonna. Avec un gémissement, elle s'accroupit pour tirer son sac dessous la couchette d'ambre. Il y avait dedans une chemise en coton léger, une chemise de ville. Elle la sortit et l'enfila sur sa peau à vif. Parangon était passé des hurlements aux marmottements confus. Puis, il s'était muré dans ce terrible silence par lequel il s'évadait du monde. Elle avait cru voir un sourire flotter sur ses lèvres, mais Ambre était folle d'inquiétude. Althea l'avait laissée assise sur le beau pré en train de jouer de la cornemuse. Des comptines enfantines d'après elle, mais parfaitement inconnues d'Althea. Elle était passée devant les hommes qui récuraient le sang et le venin sur les ponts piqués de trous. Elle avait fait halte pour constater avec étonnement les dégâts subis par le bois dur comme du fer, qui avait fondu en formant des rainures et des creux. Puis, elle était retournée à sa cabine et s'était traînée jusqu'à sa couchette. Combien de temps s'était-il écoulé? Pas suffisamment. Et maintenant, Brachen avait envoyé Cliff la sortir du lit. Il voulait sans doute lui dire comment elle aurait dû s'y prendre. Allons, c'était la prérogative du capitaine. Elle espérait seulement qu'il ferait vite, sans quoi elle risquait de s'endormir sous son nez. Elle resserra sa ceinture et alla affronter l'épreuve. À la porte de la chambre du capitaine, elle lissa ses cheveux en arrière et rentra sa chemise dans ses culottes. Elle regretta vainement de n'avoir pas pris le temps de se laver après le combat. À ce moment-là, la tâche lui avait paru trop fastidieuse. Trop tard maintenant. Elle frappa d'un coup sec et attendit la réponse de Brachen. Elle referma la porte derrière elle, puis resta figée, les yeux écarquillés. Elle s'écria en s'oubliant elle-même, « Oh, Brachen !» Dans son visage écarlate, ses yeux sombres ressortaient affreusement. D'immenses cloques aqueuses boursouflaient ses joues et son front tels des verrues du désert des pluies. Les lambeaux de sa chemise pendaient sur le dossier d'une chaise. Il portait sa chemise propre flottante comme s'il pouvait à peine supporter le contact du tissu sur sa peau. Il montra les dents dans une grimace qui se voulait un sourire.
« Vous n'avez pas l'air en meilleur état, » déclara-t-il.
Il fit un geste en direction de la cuvette.
« Je vous ai laissé de l'eau chaude dans le pot. »«
Merci, » dit-elle gauchement. Il lui tourna le dos tandis qu'elle acceptait son hospitalité. Elle siffla en plongeant ses mains meurtries dans la cuvette. Puis, quand la sensation de brûlure s'apaisa, elle eut l'impression de n'avoir jamais éprouvé un tel bien-être.
« Aff va s'en tirer. Il est pire que nous. Je l'ai fait laver en entier par le coq à l'eau fraîche. C'est à peine si le pauvre bougre a pu le supporter. Il est couvert de cloques sanglantes. Ses vêtements ont été complètement rongés, mais ne l'ont pas suffisamment protégé. Ce beau visage va garder des cicatrices, j'imagine. »
Il marqua une pause, puis fit remarquer.
« Il a désobéi à vos ordres et aux miens. »
Althea porta la serviette chaude à son visage. Brachen avait un miroir fixé à la paroi, mais elle n'avait pas encore osé s'y regarder.
« Ça m'étonnerait qu'il s'en souvienne pour l'instant. »«
Pas pour l'instant, peut-être. Mais dès qu'il aura quitté le lit, je veillerai à le lui rappeler. » »«
S'il l'avait laissé tranquille, ce fichu serpent serait peut-être parti. Ses actes ont mis en danger le navire et l'équipage. » Il a l'air de croire qu'il a plus de bon sens que le second ou le capitaine. Il ne tient pas compte de votre expérience ni de la mienne. Il a besoin qu'on le secoue un peu.
« Mais c'est un bon marin, »
rétorqua Althea à contre-cœur.
Brachen ne faiblit pas. « Quand j'en aurai fini avec lui, il sera encore meilleur. Il sera un marin obéissant. »
Elle supposa que se glissait là-dedans une pointe de reproche à son endroit. Elle aurait dû elle-même administrer cette leçon à Aff. Elle se mordit la langue et se regarda dans le miroir. Son visage semblait avoir été ébouillanté. Elle promena légèrement les doigts sur ses joues boursouflées de petites cloques. « Comme les écailles du serpent, pensa-t-elle. » Et sa mémoire s'accrocha un instant sur le souvenir de leur beauté.
« Je retire Artu de votre car et je le mets dans celui de Lavoï, » continua Brashen.
Elle se raidit. Les yeux de son père, noirs de colère, la regardèrent dans le miroir. Elle maîtrisa sa voix et répondit froidement.
« Je trouve ça injuste, capitaine. »
Elle proféra le dernier mot entre ses dents.
« Moi aussi, » convint Brashen de bon cœur.
Mais il a supplié Lavoï à genoux et l'autre lui a finalement cédé pour s'en débarrasser. Lavoï lui a promis le plus sale boulot qu'il pourrait trouver sur le navire et Artu a sangloté de gratitude. Qu'est-ce que vous avez bien pu lui faire ?
Althea se pencha sur la cuvette et se passa par deux fois de l'eau sur le visage. Elle frotta doucement. L'eau dégouttait dans la cuvette, teintée de rouge.
Elle examina la coupure à la racine de ses cheveux. Elle s'était fait ça sur les dents d'Artu. Elle déclara, mâchoire serrée, en bassinant soigneusement la blessure.
« Le capitaine ne devrait jamais s'intéresser de trop près à ce genre de choses. »
Brashen laissa échapper un petit rire.
« C'est drôle. Cliff est venu me chercher en courant et je suis arrivé, affolé. D'après Cliff, Parangon hurlait que vous étiez en train de vous faire tuer. Alors j'arrive et je vous vois tirant Artu par un croc de chargement. J'ai regardé et je me suis dit, par le souffle de ça, qu'est-ce que me dirait le capitaine Vestrit s'il la voyait maintenant ?»
Elle apercevait la nuque de Brashen dans le miroir. Elle lui fit la grimace. Comprendrait-il jamais qu'elle pouvait se débrouiller seule ?
Elle se rappela qu'Artu lui avait mordu le bras. Elle retroussa sa manche et jura silencieusement en voyant les marques de dents inégales. Elle trempa les doigts dans le savon de Brashen et frotta. La peau lui cuisait. Elle aurait préféré être mordue par un rat. Et il poursuivit d'une voix plus douce.
Alors la seule chose qui me soit venue à l'esprit, c'est la voix d'Ephron Vestrit disant « Si le second a la situation en main, le capitaine ne doit pas s'en occuper. »
Il avait raison. Il n'est jamais intervenu quand je réglais mes affaires sur la Vivacia. Même Lavoï sait ça. Je n'aurais jamais dû dire un mot.
C'était presque une excuse.
Lavoï n'est pas si mal, concéda Althea en retour.
Il s'améliore,
approuva Brashen prudemment. Il croisa les bras sur la poitrine.
Je peux m'en aller si vous voulez utiliser l'eau qui reste.
Non, merci. C'est surtout de sommeil que j'ai besoin. Mais j'apprécie la proposition. Je ne sens pas trop mauvais, si ?
Les mots fâcheux lui avaient échappé avant qu'elle se rappelât la façon dont il pouvait les interpréter. Un petit silence s'éleva entre eux comme un mur. Elle avait franchi les limites.
« Vous n'avez jamais senti mauvais, » admit-il à mi-voix.
« J'étais simplement en colère et blessé. »
Il faisait toujours face au mur, mais elle surprit son haussement d'épaule dans le miroir.
Je croyais alors qu'il y avait quelque chose entre nous.
Quelque chose qui... C'est mieux comme ça maintenant,
interrompit-elle précipitamment.
Sans aucun doute,
dit-il sèchement. Le silence se prolongea. Elle regarda ses mains abîmées. Les phalanges étaient enflées. Quand elle plia les doigts de la main droite, elle avait l'impression de sentir du sable dans ses articulations. Pourtant, elle pouvait les bouger. Pour rompre le silence, elle demanda « Quand on peut remuer les doigts, ça veut dire qu'on n'a rien de cassé, n'est-ce pas ?»«
Ça veut dire que ce n'est pas trop méchant, » corrigea Brashen.
« Faites-moi voir. »
Tout en sachant que c'était une erreur, elle se tourna pourtant et lui tendit les mains. Il s'approcha et les prit dans les siennes. Il lui fit remuer les doigts, palpa les os. Il secoua la tête à la vue de ses phalanges et grimaça en apercevant les marques de dents sur son poignet. Il lui lâcha une main, lui releva le menton. Il la scruta d'un œil critique. Elle se mit à le dévisager à son tour. Il avait des cloques jusque sur les paupières, mais ses yeux sombres étaient limpides. C'était un miracle qu'il n'eût pas perdu la vue. Par le col ouvert de sa chemise, elle remarqua des zébrures sur sa poitrine.
« Ça va aller !» lui assura-t-il.
Il hocha la tête.
Vous êtes une dure à cuire.
Vous m'avez probablement sauvé la vie quand vous avez distrait le serpent avec l'aviron,
dit-elle en se souvenant subitement.
Oui, je suis dangereux avec un aviron.
Il tenait toujours sa main. Sans crier gare, il l'attira à lui. Quand il se pencha pour l'embrasser, elle ne s'écarta pas. Elle leva le visage vers lui. Ses lèvres étaient douces. Elle ferma les yeux et refusa d'être sage. Elle s'interdit de penser. Il interrompit le baiser. Il la serra davantage contre lui, mais ne l'enlaça pas. Un bref instant, il posa le menton sur la tête d'Althéa. Il déclara d'une voix grave : « Vous avez raison. Je sais que vous avez raison. C'est mieux comme ça. » Il soupira profondément. Mais cela ne me facilite pas les choses. Il lâcha sa main. Elle ne sut que répondre. Ce n'était pas facile pour elle non plus, mais le lui avouer ne ferait qu'empirer la situation pour tous les deux. Il avait affirmé qu'elle était une dure à cuire. Elle le prouva en se dirigeant vers la porte. Il ne dit rien et elle s'en fut. Elle passa devant Cliff qui se tenait dans la descente des cabines. Il frappait la cloison de son pied nu et se mordillait la lèvre inférieure. « Ce n'est pas bien de regarder par les trous de serrure, » reprocha-t-elle sévèrement en passant.
« C'est pas bien non plus d'embrasser son capitaine, »
rétorqua-t-il avec insolence. Avec un sourire hilar, dans un éclair de pieds sales, il disparut.